s'arrête un petit peu peut-être. On a tout notre temps. On est retenu par personne. C'est toujours trop court. C'est toujours trop fugace. C'est pas trop... Notre-Dame de douleur. Notre-Dame de douleur. Notre-Dame de la compassion. J'espère que nous retiendrons avec tous ceux qui entendent comme ça, ceux qui touchent par l'intérieur de la grâce sans le savoir, le mystère de Marie Tétouleur, le mystère de Notre-Dame, le mystère de... On appelle ça le mystère de la compassion. Ce mot, vous savez, la compassion est un mot qui a été, comment on pourrait dire, j'allais dire volé, vous voyez, par la gnose, la compassion. La compassion, bouddhiste, la compassion des religions ésotériques, la compassion. Cette compassion, c'est une espèce d'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui souffre. Je me mets en dessous de son âme, dans la pateia, je l'enveloppe et je porte celui qui souffre. Ils appellent ça la compassion. C'est le contraire de la miséricorde. La compassion, c'est le contraire de la miséricorde. Dans la falsification gnostique, ésotérique, des religions orientales, voyez, qui sont liées aux esprits de feu, qui sont dans l'air. La bodhéité, l'anatnamisme, les bodhisattvas. Ce mot de compassion est très édulcoré aujourd'hui. Cette espèce d'invasion. Le mystère de compassion par le soubassement, j'allais dire, des énergies cosmiques, de l'anatna, et de la bodhéité, oui. De la compassion, de la passivité. C'est quoi la compassion bouddhiste? La compassion bouddhiste, oui, c'est que vous enveloppez dans votre apatheya anatnamique, votre bêté parfaite, votre bonté inféconde finalement, puisqu'elle est devenue éternelle, elle est inféconde, alors elle enveloppe celui qui souffre. Alors, vous portez celui qui s'ouvre en l'enveloppant de votre apatheya, et vous le portez comme ça, c'est la compassion. Ah, ça lui fait du bien. Mais c'est le contraire de la compassion de Marie. La compassion de Marie n'est pas un enveloppement. De la croix de Jésus, elle est la fleur, la floraison de la passion de Jésus dans l'humanité, la nature humaine entière. Parce que nous l'avons vu, nous le sentons, nous le touchons, nous l'entendons, nous le touchons, nous le voyons, nous le comprenons, nous sommes envahis par ça. Nous sommes envahis par ce fait que Jésus a besoin de Marie, Dieu a besoin de Marie pour qu'il y ait la rédemption du monde. Il en a besoin, parce qu'il ne peut pas offrir ce qu'il est dans le mystère de sa passion, lorsque sa passion doit être offerte dans sa divinité agréée, toute pure, ouverte. Par le coup de lance, l'eau, la création tout entière, le sang, tout ce qui est saint, pur, surnaturel et divin dans l'histoire de l'humanité entière, du passé, du présent et de l'avenir. Et l'Esprit Saint, dans l'au-delà intérieur, les hypostases, les circonvallations divines, toutes livrées dans la passion du Christ, ne peuvent pas être offertes au Père pour que le monde soit sauvé du péché. Et Jésus ne peut pas offrir. L'âme humaine, l'humanité de Jésus ne peut pas offrir. Et c'est pour ça qu'il est obligé d'arracher son âme de son corps. Parce que si son âme ne s'arrache pas de son corps, le mystère de compassion de Marie ne peut pas s'accomplir, ne peut pas fleurir. La croix de Jésus ne peut pas s'épanouir, ne peut pas pénétrer les cieux, ni les hypostases. Ni le ciel des gloires, ni l'au-delà des attributs divins, angéliques et glorieux et des hiérarchies, ni les hypostases du septième ciel empiré, ni les perfections immaculées des intentions de sagesse créatrice du paradis. Il n'y a qu'avec la passion, la croix en Marie, que la passion et la croix de Jésus peuvent aller jusqu'au bout de la rédemption, de la glorification du Père. L'holocauste brûlant d'amour. qui est en elle. Jusque dans les temps accomplis de l'Église, peut aller jusque-là. Voyez. Donc on dit, Dieu a besoin de Marie. Et Marie n'a pas enveloppé les souffrances de Jésus en les portant en elle pour que ce soit plus facile pour Jésus. Ce serait terrible, ça. Ce serait horrible. La compassion de Marie, le mystère de compassion de Marie. Dieu a besoin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus ne peut pas offrir la dernière goutte de sang, la dernière, l'union hypostatique déchirée dans son hypostase, comme fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel, portant charismatiquement son immolation jusque dans le sein des grandes profondeurs de la paternité de Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire? Parce qu'il n'a pas la foi. Nous, nous avons la foi. Les sommets de notre intelligence sont pénétrés par la lumière surnaturelle de la foi qui est totalement obscure et qui appartient à la nuit totale du corps déchiré de Jésus lorsqu'il est mort. Notre foi n'est pas irriguée par la divinité, la lumière de gloire, la jubilation contemplative et aussi la joie parfaite, invincible de son cœur humain, qui, dans le fond de son cœur, est dans une joie, une béatitude parfaite, ce qui n'enlève rien. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas souffert, attention. Il y a eu la passion de Jésus. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que Jésus est rentré dans sa passion. Ça veut dire l'âme intérieure de Jésus, l'âme humaine de Jésus, l'affection, la tendresse, le cœur de Jésus, la psychologie de Jésus, tout le sensible, et même ce qui n'est pas sensible, a été broyé, haché menu, sa chair, son sang ont été broyés, haché menu. Et dans son âme, il y a eu tout le mal, toute la haine de Lucifer, toute la destruction de l'humanité, toute la nature humaine broyée, déchicotée, toutes les cruautés, toutes les contradictions, et toutes ces horreurs qui ont envahi l'âme humaine de Jésus. La croix de Jésus a eu un poids tellement fort en lui pendant toute sa vie qu'elle a porté, elle l'a envahi, elle a porté un poids de croix en lui qui était équivalent au poids de gloire de sa vision béatifique. Et il y a eu à l'intérieur de l'âme de Jésus un combat prodigieux, un théâtre prodigieux dans la passion de Jésus qui a duré 36 ans. Toute son âme était broyée dans la nuit de l'agonie. Le poids de croix, de souffrance, de douleur à l'intérieur de Jésus pendant toute sa vie et sur la croix est équivalent au poids d'horreur et d'abomination à la lumière de gloire qui irrigue de joie, de bonheur et de glorification, de béatitude tous les saints du ciel après la résurrection universelle. Et il y a à l'intérieur de Jésus le poids de croix est si puissant, il est équivalent au point de jubilation et de gloire de Dieu dans les sommets de sa vision béatifique. Ce n'est pas parce qu'il est dans les sommets de la vision béatifique que du coup Jésus ne souffre pas. Le théâtre intérieur de la vie de Jésus, c'est une passion prodigieuse. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les sommets de la nature humaine soient immolés aussi. Il faut que les principes de la création soient immolés aussi dans la nature humaine. Jésus a besoin de Marie, Jésus a besoin de l'Église, parce que nous, nous avons la foi. Marie, c'est nous, hein, ben, puisqu'on se consacre à elle. La foi catholique, c'est la foi de Marie, c'est pas la foi de Moïse. C'est pas la foi de notre foi, c'est la foi du soleil, hein. C'est pas la foi des étoiles dans la nuit, ouais, c'est la foi de Marie, c'est ce soleil brûlant d'amour, de lumière. Et la foi fait que notre intelligence reste dans la nuit. Elle n'a plus ce support invincible de la lumière de gloire, de la jubilation profonde du cœur, cette force invincible, cette unité totale du corps, de l'âme, du sang, de l'esprit et de la subsistance dans le Verbe de Dieu. Cette indestructibilité. Et si bien que quand Jésus a arraché son âme de son corps, il a ajouté à sa passion une déchirure terrible dans son union hypostatique. C'est un miracle d'amour pour le Père dans la spontanéité de Joseph et de Marie. Aussitôt, il a fallu qu'ils s'engloutissent dans l'océan de cette spontanéité. À l'intérieur de la plaie ouverte et unanime de Joseph et de Marie, dans le lieu des profondeurs, j'allais dire substantielles et réelles de la mort et de la ténèbre. Et aussitôt, tout s'est enflammé et la résurrection a été créée par Dieu dans l'âme de Jésus et de Joseph. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment cet arrachement de l'âme hors du corps de Jésus est insupportable, impensable, impossible. Et c'est là, pour le coup, qu'elle vient s'envelopper de la spontanéité glorieuse et bénie, de la croix glorieuse. C'est Marie qui a engendré dans le Verbe cette résurrection, cette consolation, cette survenue du paraclet tout pur, cette Pentecôte, ce soleil, qui lui permet à elle de compléter, d'aller plus loin dans la passion, de porter en elle toute la ténèbre, l'agonie du dégoût, du péché dans le monde entier. Toute la haine de Lucifer, elle l'a portée, mais elle l'a portée à l'intérieur du soleil de la spontanéité. Elle a échappé à la tête du dragon en étant emportée dans le désert du Père. Elle s'est laissée réassumer et la supervenue du paraclet venu de la descente de Jésus aux enfers a fait d'elle le mystère de compassion. Elle a vécu quelque chose de fou, d'extraordinaire, que les catholiques doivent voir, toucher, contempler. Et puis, laisser pénétrer en eux et en vivre et le voir, le découvrir, le comprendre et s'y épanouir dans la grâce catholique de la sainteté des cellules de la terre. Nous avons été choisis pour être dans la foi, ce qui avec Marie permet à la compassion de l'Église, du Verbe de Dieu dans l'Église, de s'exprimer jusqu'à l'accomplissement de la perfection de la Jérusalem spirituelle du monde. Mystère de compassion, c'est un immense mystère. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le comprendre. Parce que bien souvent, on dit, ah, c'est un mystère. Donc, c'est un mystère. Alors. On est très bouddhiste, vous savez. C'est un mystère. Alors, c'est pas pour nous. Parce que c'est un mystère. Alors, Lucifer est là. Il dit, ah, il dit, c'est un mystère. C'est génial, ouais, c'est vrai, c'est un mystère. Allez, hop, dégagez. C'est pas pour nous. Comment ça, c'est pas pour nous? C'est un mystère, donc c'est pour nous. Donc on peut le comprendre. C'est la différence entre un mystère et quelque chose qui n'est pas un mystère. Un mystère, on peut le comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas un mystère, il n'y a plus rien à comprendre. Par exemple, 1 plus 1 égale 2. C'est pas un mystère, puisqu'une fois que je l'ai complètement compris, il n'y a plus rien à comprendre. Donc, vous voyez, c'est pas un mystère. Dans ce cas, mystère, je dis 1 plus 1 égale 3. Ça, c'est un mystère. Mais je peux le comprendre. Je peux le voir. Je peux le pénétrer. Je peux en vivre. Je peux le contempler. Je peux l'assimiler. Et je peux en vivre. Je dis, ah, la très sainte Trinité dans l'unité. Ah, la spontanéité. Mais c'est ça. Ah, je le vois surnaturellement et même glorieusement et même dans la grille. Je le vois. Je navigue dans le ciel intérieur de la paternité de la poule à l'intérieur avant la création et dans l'accomplissement des temps. Je le vois. Je navigue dedans dans le monde intérieur de Dieu. Le monde intérieur de Dieu est le mien. Il m'est donné. Jésus m'a donné son Père. Si vous dites notre Père, c'est mon Père, c'est votre Père. Il nous a donné sa mère, son mystère de compassion. Pas une partie, il nous a donné tout le mystère de compassion. Voici ta mère. Et donc je dois y pénétrer, le toucher, le contempler, l'assimiler, en vivre, m'y laisser emporter, assumer, et le voir, le découvrir, le contempler sous le souffle des dons du Saint-Esprit, des sept anges, et avec la vastitude du monde angélique, en jubiler, nous épanouir, le contempler. Dans la lumière surnaturelle de la foi, oui, mais la lumière surnaturelle de la foi, dans toute nocturne qu'elle soit, elle laisse passer la lumière, née de la lumière. Et dans la lumière, née de la lumière, je vois tout ça. Et je dis que c'est un mystère parce que plus je le vois, plus je le comprends. Et mieux je le comprends, plus je peux le voir encore mieux encore. Et je n'ai jamais fini de mieux le comprendre, tandis que 1 plus 1 égale 2, c'est fait en 2 secondes. Et tandis que le mystère, je le comprends de mieux en mieux. Un mystère, on le comprend de plus en plus. On n'a jamais fini de le comprendre de mieux en mieux. Un mystère, mystère de compassion. Le mystère, je le vois, je le comprends, je le saisis. C'est fou, quoi. C'est trop fort. Tout ce que je comprends dans ce... Je vois tout, je comprends tout. Mais des abîmes nouveaux s'ouvrent, ces voiles se déchirent à nouveau pour descendre dans les abîmes de gloire, de contemplation. Attends, mon Dieu, que c'est grand le mystère de compassion. C'est vrai que, bon, il faut contempler la souffrance, je veux dire la passion de Jésus, ce théâtre prodigieux qui est à l'intérieur de son âme, de son cœur, pendant toute sa vie, hein. Et qui demeure présent, de manière palpitante et sensible, dans chaque hostie. Je peux m'engloutir à l'intérieur de l'hostie et rentrer dans ce théâtre prodigieux de la passion de Jésus. Pas de manière enveloppante, mais de manière à y pénétrer, le contempler, l'assimiler et vivre avec cette passion. Et avec lui, remettre mon esprit en Marie. Et en Marie, à sa responsabilité avec le Père incréé éternel, de manière qu'elle engendre le mystère de compassion dans l'église de la fin, et que moi je vive ce mystère de compassion avec elle. Il ne faut pas dire que Marie n'a pas souffert, comme Bouddha. Marie a souffert toutes les souffrances en affinité avec la passion de Jésus, mais en plus, elle a souffert de manière sensible dans son âme et sa nature humaine parfaite et accomplie. C'est vrai, en passant, c'est vrai dans sa responsabilité au Saint-Esprit, à partir de son immaculation, dans la paternité de Dieu. Sans arrêt, elle a passé chaque instant du temps comme ça, dans son mystère de compassion, c'est vrai, pour assumer et vivre, et toujours être magnifiée dans le paraclet, c'est vrai. Par la foi toute pure, l'espérance toute pure, un amour qui, d'abîme en abîme, de passion et de compassion en compassion, jusqu'à l'accomplissement de tous les temps, dans toutes les âmes créées par Dieu sans exception et à travers toutes sans exception. Elle est passée à travers tout ça. Elle a vécu la passion eucharistique de Jésus jusqu'à la fin des temps. Elle a engendré la présence réelle de la passion et de sa compassion dans le mystère eucharistique. Elle a engendré le sacerdoce, victimal et éternel, dans la chair et dans le temps. Elle est la mère de la présence réelle de l'Eucharistie. Elle est la mère du sacerdoce accompli, terminal, qui vient à la messe de la fin célébrer la compassion de Marie avec sa passion, mais dans une unité indissoluble de rédemption du monde entier. Dans l'Eucharistie accomplie de la fin, il y a une indissolubilité, une indivisibilité, une unité en Marie entre l'Eucharistie de la fin, la venue du Fils de l'homme, et le ministère de l'infaillibilité eucharistique, du sacerdoce victimal et éternel. Et cette indivisibilité emporte, comme un torrent, tout le monde angélique, tout le monde des attributs divins, dans l'Eucharistie finale, pour baptiser tous les hommes de bonne volonté, et rayonner toute la matière de l'univers, rassembler en un, dans cette indivisibilité, l'au-delà de l'unité de toutes les compassions de Marie, dans la passion du Christ, pour faire surgir l'émanation du paraclet, cette glorification du Père, puisque tout s'efface dans le Père, dans le mystère de l'effacement, de la victimale brûlant de l'épousée, c'est-à-dire de la deuxième personne de la très sainte Trinité, dans l'indivisibilité de la passion et de la compassion. Alors, cet effacement produit une gloire, un paraclet, une consolation pour la paternité agréée de Dieu, et là à laquelle la paternité agréée de Dieu vient s'épanouir, et en même temps s'effacer, disparaître, pour que cette consolation, ce paraclet, cette émanation, soit un engendrement. Et c'est à cause de ça que Marie à Lourdes a dit « Je suis l'Immaculée Conception. » Je suis un Goémi. Ayer, Charayer, Immaculata Conception. Et Saint-Maximilien Maricole, patron des temps qui s'ouvrent, a dit « Mais là, voilà, Saint-Esprit est engendré cette fois-ci. » Il dit « Je suis l'Immaculée Conception. » Conception, c'est un engendrement. C'est extraordinaire ce passage de l'émanation du Saint-Esprit dans la très sainte Trinité, dans ses hypostases. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas le comprendre, c'est un mystère. Du coup, je peux très très bien comprendre la différence entre l'émanation du Saint-Esprit à partir de l'unité sponsale des deux premières personnes de la très sainte Trinité dans une sponsalité créée, sublime et parfaite. Et puis, ce fait que Saint-Esprit soit une conception, parce que dans le-delà de l'unité des deux, de cette sponsalité, de la mystère de compassion, il y a Saint-Esprit rentre dans l'engendrement de la conception, immaculée du ciel glorieux et de l'au-delà du ciel glorieux. C'est ça que dit Saint-Maximilien Kolb. Marie, c'est l'icône du déploiement à l'intérieur de la très sainte Trinité, dans la nature humaine, dans la nature divine, unique, substantielle et essentielle du trait divin, la divinité toute pure. Émanation et procession sont dans l'indivisibilité à l'intérieur de l'au-delà de la gloire, de toutes les résurrections. De l'univers, du ciel et de l'univers intérieur de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité. Elle a poussé bien plus loin le mystère de la passion de Jésus. Le mystère de la passion est un sommet de souffrance, de douleur, d'immolation. Mais avec Marie, ça a pénétré le sein du Père dans l'union hypostatique déchirée du Verbe de Dieu. Et ce retournement a fait qu'il n'y avait plus que de l'amour entre dans le mystère de compassion. Et cet amour a fait qu'il y ait une sponsalité possible dans l'au-delà du mystère de la résurrection. C'est pour ça que la place de Saint-Joseph et la sponsalité avec Marie est essentielle dans le mystère de compassion. Et ça, je dois le percevoir, je dois le toucher, je dois l'entendre. Nous avons vu. Nous avons entendu, touchant le mystère de compassion. Nous l'assimilons, nous le contemplons. Notre vie contemplative mariale est essentielle. Nous sommes catholiques. Les protestants, les bouddhistes disent non, ça, c'est pas pour nous, c'est un mystère. Les catholiques disent c'est un mystère, donc c'est pour nous. Donc on peut le comprendre, on peut le voir. On peut l'entendre, regardez, vous l'entendez là, nous l'entendons, dans la prédication immaculée du Saint-Père. Parce que moi, je prononce des paroles du pape, moi. Moi, j'étais formé par le Père Emmanuel. Dis, je ne veux pas entendre un mot qui vienne de toi. Je ne le veux pas. Ça n'intéresse personne. Tu dois prononcer les paroles de l'Église. Oui, moi, tais-toi! Oui, moi, tais-toi! Et pendant 10, 15, 20 ans, j'ai appris à ne plus rien dire qui vienne de moi. Uniquement la doctrine infaillible du Saint-Père. Celle qui s'écoule de la Jérusalem glorieuse dans l'infaillibilité doctrinale de la lumière née de la lumière, dans la proclamation de la révélation où Dieu montre ce qu'il est lorsqu'il vient pour révéler et ouvrir les espaces intérieurs de la vie qu'il donne, où il disparaît pour que nous y disparaissions en le voyant. Mais si chacun arrive avec sa petite spiritualité, voilà, ça devient imbuvable. Chacun avec son petit message divin, Jésus m'a dit à moi, bon, 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 bon. Ça devient imbuvable. La vie contemplative est nécessaire. Les messages de chacun, en fonction du filtre de soi-même, pour le communiquer au monde, le message de Jésus, ça ne vaut rien. Ferme-la! Tu as un message de Jésus, tu la fermes. « Mais c'est un message de Jésus. Jésus toi-même. Il faut apprendre à être catholique. Si on n'est pas contemplatif, on est obligé de se nourrir de dévotion. Et le message qui passe par le filtre de l'humain. Le monde ancien est terminé. Le monde nouveau est là. C'est la toute-puissance divine directement qui s'écoule dans le mystère de compassion. La mystère de compassion, elle pénètre l'intérieur des hypostases de Dieu. Dans le corps de Jésus, c'est le Verbe de Dieu directement, sans le voile de l'âme humaine. Et il fallait que Jésus, par un miracle d'amour, pour permettre le mystère de compassion de Marie, il fallait qu'il arrache son âme hors de son corps. Pour que le mystère de compassion puisse passer, puisse offrir l'eau, le Saint-Esprit, le sang, l'Esprit Saint. Et offrir le Verbe de Dieu déchiré dans la matière vivante d'un corps qui établit la présence du temple créé du Père dans la création tout entière depuis le principe du Bereshit jusqu'à l'accomplissement. Et donc le Verbe déchiré, l'union hypostatique déchirée, c'est elle qui fait pénétrer le mystère de la passion du Christ dans l'intimité éternelle du Père. Pour l'émanation du Saint-Esprit, et du coup elle est envahie par le paraclet Esprit Saint, cette passivité substantielle incréée d'amour. La première Pentecôte, c'est le mystère de compassion. La vraie Pentecôte. Les débuts de l'Église, c'était la Pentecôte, la troisième Pentecôte, une Pentecôte cabotique. Hein? Cabotique. Voilà. La deuxième Pentecôte, c'est le souffle de l'Esprit Saint, Jésus ressuscité sur les apôtres, qui reçoit ce souffle, recevez l'Esprit Saint. Et il a reçu ce souffle de Pentecôte pour que la force du Saint-Esprit dans la succession apostolique puisse atteindre la fin du monde jusqu'à la résurrection de la toute chair. Mais ça, c'est seulement la deuxième Pentecôte. Mais nous, nous sommes appelés à vivre de la première Pentecôte, la Pentecôte de l'Immaculation, la Pentecôte du principe. Et cette Pentecôte, c'est le mystère de compassion de Marie, l'eau, le sang, le Saint-Esprit. C'est le paraclet. La Pentecôte de la subsistance intime, de l'au-delà des sept dons du Saint-Esprit, dans la racine du paraclet. Et nous allons voir à l'intérieur de cette passivité incréée, substantiellement passive d'amour, de fruition incréée, qui pénètre dans la nuit de la foi, de la compassion de Marie, et qui fait qu'il est tout à fait à l'aise lorsqu'il actue, il accomplit tout ce que l'Immaculée Conception est en puissance dans son mystère de compassion. Et c'est ça la vie catholique. Nous ne sommes pas protestants. Nous ne sommes pas des joueurs de flûte. C'est évident que si on n'est pas dans une virginité surnaturelle parfaite, transformée, transformante, surabondante et accomplie, comment notre vie contemplative peut-elle prendre place dans notre foi ? La foi catholique sans la vie contemplative n'est rien. C'est là qu'on le voit. La vie contemplative nous fait pénétrer dans la substance et l'actuation téléchique des choses sacrées de Dieu dans notre vie de la terre. Et le passage de l'éternité au temps et du temps à l'éternité, du flux et reflux d'un corps spirituel, du corps originel, se fait sans voile dans la vie contemplative. On passe librement dans la vie contemplative en toutes choses. La reine immaculée de l'univers, notre nature humaine entière, a trouvé son épanouissement totalement envahi par le mystère de compassion de Marie. Et elle s'évanouit. Je remets mon esprit. Voici ta mère, voici ton engendré éternel. Et là, Jésus dit sur la croix à Jean, à Marie, voici ton engendré éternel. Il est là, ton enfant. Il est dans l'Église accomplie de l'Apocalypse. La vision du Verbe de Dieu, dans l'engendrement du Paraclet, l'aspiration, la compassion de Marie épanouie, au-delà de l'Assomption, toute chose, à l'intérieur, l'unité, la très sainte Trinité. Alléluia. Vous savez, à force d'entendre les paroles infaillibles de l'Église, à force de les entendre, on va finir par se les répéter aussi. Et ces paroles, à force de les entendre, on va s'habituer. Ça sert à ça, la parole de Dieu. On s'y habitue, on les rumine, on les fait tourner autour de nous. On les fait tourner. Mystère de compassion. Mystère de compassion, immaculée conception, union hypostatique, désirée, transfert, opération, transglorification, passivité substantielle, incrédemment, paraclet. On fait passer tous ces mots et toutes ces doctrines vivantes, cette dynamique incrée de la trinité éternelle de chacune des hypostases de Dieu. Père, puis celle du Fils aussi, celle du Verbe, et voir cette espèce de remous, ce théâtre prodigieux qui se passe à l'intérieur de l'intimité de chacune des personnes divines dans le mystère de compassion qui l'envahit. Et là, à ce moment-là, une invasion de l'holocauste brûlant d'amour, de l'eau de la divinité sponsale, de l'humanité tout entière dans le sein du Père. Et là, à ce moment-là, il y a une espèce de révolution, de conversion. Et du coup, il n'y a plus que cette spiration active. Ce passage pour nous, dans toute la matière, d'une nature de compassion, totalement virginisée surnaturellement et divinisée, dans l'au-delà de la gloire, nous le tenons de Marie dans sa compassion. Elle engendre ça dans notre vision, notre contemplation. On y pénètre, on le voit. Si on ne le voyait pas, est-ce que je pourrais vous en parler ? À ce moment-là, ce serait une imagination. L'Église, le Saint-Père, ne peut pas vous parler de ça, dans sa doctrine infaillible, mystique, divine et mariale, si ce n'est en vous communiquant le trop-plein de sa contemplation actuelle. Un prêtre n'a pas le droit de dire quelque chose si ce n'est pas le déportement de sa contemplation divine actuelle. Alors à ce moment-là, ça nourrit le cœur eucharistique de Marie, de l'Église, dans l'infaillibilité de l'Église de la fin. Alors oui, on peut ouvrir les temps à l'éternité. Et le paraclet, la Pentecôte mariale de Marie au pied de la croix, qui reçoit le paraclet dans la matière vivante d'un corps nocturne, dans le mystère de compassion, peut nous être donné. Et tout le fruit de tous les sacrements de l'humanité passée, de l'humanité actuelle et de l'humanité future accomplie s'unifie dans l'indivisibilité de Dieu en nous. Et on le voit. Et à force de remuer ces mots, cette doctrine, qui sont très très peu finalement ces mots, vous qui me connaissez quand même depuis quelques années, hein. C'est toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes phrases. Hein. C'est toujours la même doctrine, c'est toujours la même réalité révélée, communiquée, c'est toujours la même nourriture. Il n'y a pas 8000 pages, ça se résume en 2 pages. Demandez à Sainte Catherine,
oui.
Ça se résume en rien du tout. Oui, c'est beau ça. Enfin, si on arrive à 7000 pages, c'est pas mal. Mais il faut tout résumer en 7. Et puis après, on s'unifie de manière contemplative dedans. Et on le voit. Et c'est Saint-Esprit qui fait le reste du travail, de la transformation. Le travail, c'est-à-dire de la transformation intérieure de notre chair. La mise en place du corps spirituel, librement en nous. C'est pas nous. Le corps de résurrection. Il a toutes les capacités de pénétrer et d'habiter toutes les gloires angéliques, sans exception. Et dès cette terre, le monde nouveau, c'est pas rien. Hein. Alors le monde ancien, laissez-le aux bouddhistes. Enfin, aux bouddhistes catholiques. On va te mettre ça dans notre cœur. Et dans ton cœur. Hein? Et dans son cœur. Hein? C'est le royaume du cœur. Jésus est apparu, puis il a dit, je cherche partout sur la terre. J'ai cherché partout sur la terre. Partout sur la terre, je cherchais un cœur où je puisse pénétrer pour vivre ça. Et je n'ai pas trouvé un seul. L'apparition à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, par toute la terre, dans tous les catholiques, chercher un seul cœur qui puisse s'ouvrir et qui puisse me recevoir par là-dedans, là. Et je ne l'ai pas trouvé un seul. Pas un seul. Alors, les membres vivants du monde nouveau disent, comme Sainte Marguerite, Marie à la Corba, comme Mélanie, hein. Au maximum de leur minimum. Je dis, ben voilà, me voici. Viens, Seigneur, pour que le mystère de compassion puisse s'épanouir dans le triple lys du gouvernement éternel de Dieu dans la terre. Dans la queue du paraclet. Et ceux qui ont reçu le paraclet, ceux-là sont des engendrés éternels de Dieu sur la terre. Les enfants du monde nouveau. Alors le mal peut s'approcher d'eux, hein, et disparaît immédiatement. Quand vous mettez un torche de lumière dans une cave très sombre, il n'y a plus la moindre nuit à l'intérieur de la cave. Le mal disparaît immédiatement. Et tout le mal qui s'approche de nous disparaît de notre terre. Mystère de compassion de Marie, voilà. Donc, on se consacre à elle. On s'engloutit en elle. On s'enfonce délicieusement en elle. On s'engloutit merveilleusement en elle. On s'efface totalement en elle. On disparaît absolument et substantiellement en elle. On est transsubstantié en elle. Et dans l'au-delà de sa spontanéité jusque dans l'incréé de Dieu. Et dans son mystère de compassion, on s'épanouit en elle. On est elle. C'est très important de passer de l'étoile au soleil. C'est la volonté éternelle du Père. C'est le fiat éternel de la volonté du Père qu'on passe de l'étoile au soleil dans le corps spirituel du Père et du paraclet. Et pour ça, il faut faire oraison. Il faut que notre vie contemplative paraisse, s'épanouisse. Et se transforme, et transforme, vient transformer le monde entier de l'Église et de l'univers. Le doigt de Dieu nous attend là. Pas sur le fait, ah, on va faire des efforts, ah, on va prendre un peu moins de gluten, un petit peu moins de gluten, un petit peu moins de sucre, un petit peu moins de pain, un petit peu moins de viande. Comme ça, on aura peut-être moins d'eczéma. On va faire des efforts de pénitence. Vous voyez, on va prendre un être végétarien. Ça, c'est le Seigneur. Je pense que le Seigneur nous regarde en disant, c'est bien, bon serviteur, fidèle, tu parles. Le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de poisson, quand même. Pas exagéré. Non. Tous ceux que nous avons baptisés du baptême de désir à partir de maintenant, on le fera, hein, on continuera à le faire. Hein. Parce que le baptême, c'est un baptême qu'on fait continuellement. Hein. C'est un baptême qui se renouvelle, qui se renouvelle, qui se renouvelle. On recommence le baptême, on recommence le baptême, on recommence en horreur. On fait avancer dans le sang tous ceux qui ont ce baptême de désir, hein, ce nom qu'il leur est donné. On les réinscrit, on les enfonce dans le cœur de Marie, dans le livre de la vie d'en haut. On les enfonce, le parfum eucharistique du Saint-Père et de Marie. Oh, on va parfumer tout l'intérieur de la paternité incrée de Dieu dans le paraclet. Et on va recommencer, hein. On va être toujours, toujours présent. On va convoquer, on va être l'église de la fin.